de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers auditeurs. Vous écoutez maintenant le journal d'aujourd'hui. Vous allez écouter quelques informations importantes. Entre autres, Bappenas organise la conférence sur les ODD 2019 pour absorber les questions maritimes. Asita a déclaré qu'il devrait y avoir une réglementation ministérielle pour le tourisme halal. Le ministère de l'Agriculture détruit 83 colis agricoles illégaux de l'étranger. Et le président Joko Widodo a établi Singosari en tant que zone économique spéciale. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Bappenas organise la conférence sur les ODD 2019 pour absorber les questions maritimes. Le ministère de la Planification du Développement National PPN, l'Agence nationale de planification du développement Bappenas, en tant que coordinateur de la mise en œuvre du programme de développement durable SDG, a tenu mardi à Jakarta la conférence annuelle des SDG 2019. Le thème de la conférence SDG de cette année est « Océan durable pour améliorer la prospérité et réduire les inégalités ». Ou sur l'environnement marin, parce que l'enjeu n'est pas seulement un problème pour l'Indonésie, mais déjà au niveau mondial. Lors de la conférence, le vice-président de la République d'Indonésie, Yusuf Kalla, a déclaré que le thème de la mer était très important, car près de 80% de l'Indonésie se composait de la mer et était devenue une source de subsistance pour la population. En outre, dans son discours, le ministre du PPN, chef de la République de Bappenas, Bambang Brojonegoro, a déclaré que l'Indonésie avait déployé des efforts considérables pour concrétiser son engagement à mettre en œuvre les objectifs de développement durable dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs de développement nationaux et mondiaux, y compris les questions maritimes. Asita a déclaré qu'il devrait y avoir une réglementation ministérielle pour le tourisme halal. L'Association des entreprises de tourisme, l'Asita, a déclaré qu'il devrait exister un règlement ministériel permanent sur le tourisme halal comme base du développement du secteur économique. Le vice-président d'Asita, Java Central Daryono Asolo, a déclaré mardi que l'Indonésie avait un potentiel considérable, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas d'instruction technique pour le développement du tourisme halal. Comme il n'existait pas de telles règles, les acteurs du tourisme n'ont jusqu'à présent utilisé que les directives du Global Muslim Travel Index pour organiser des circuits halal dans le pays. Ce guide est très important dans la réalisation du tourisme halal car il concerne la nominalisation des services et des installations. Ce qui devrait être considéré et rempli pour que cette visite corresponde au conseil des halal proposés. Il a souligné qu'une chose à noter est la nécessité d'une mosquée pour les destinations halal. Il espère que l'existence de permen réglementera ultérieurement les directives. Par conséquent, la mise en œuvre est égale dans chaque région. Le ministère de l'Agriculture détruit 83 colis agricoles illégaux de l'étranger. Le ministère de l'Agriculture, par l'intermédiaire de l'Agence de la quarantaine agricole, est parvenu à détruire 83 colis non documentés ou bien illégaux contenant diverses semences comme plantes, fleurs ornementales, légumes et fruits, ainsi que leurs parties pousses via le bureau de poste de Malang de janvier à août 2019. Mouchafak Fauzi, directeur du centre de quarantaine agricole de Surabaya, a déclaré dans un communiqué reçu les colis en provenance de 9 pays sans documents, dont la Chine, les États-Unis, la Malaisie, le Laos, la France, la Suisse, Arabie Saoudite, Taïwan et Singapour. En plus de fournir un effet dissuasif et de maintenir l'autorité du gouvernement, selon Mouchafak, l'extermination a également pour but de garder à protéger les richesses biologiques de l'Indonésie et de Java orientale, en particulier contre les ravageurs des maladies de plantes étrangères. Le président Jokowi a établi Singosari en tant que zone économique spéciale. Le président Jokowi Dodo a déclaré que Singosari à Malang était une zone économique spéciale ZES. Cette détermination s'est reflétée dans le règlement gouvernemental numéro 68 de 2019 concernant la zone économique spéciale de Singosari. Dans le règlement signé par le président Joko Widodo le 27 septembre, la ZES de Singosari couvrait 120,3 hectares. La zone économique spéciale comprend deux zones, à savoir le tourisme et le développement technologique. Comme indiqué dans ce règlement mardi 8 octobre, Jokowi a déclaré que la détermination avait été prise afin d'accélérer le développement économique de la région de Malang. En outre, pour soutenir l'accélération et expansion du développement économique national, le président Jokowi Dodo a déclaré que Singosari avait été désignée zone économique spéciale en raison de ses nombreux avantages géoéconomiques. En termes d'emplacement, Singosari est près de l'aéroport international de Juanda et le port de Tanjung Perak et est connecté à la route à péage Pandan Malang. L'Indonésie et les Pays-Bas discutent du traitement d'anciens sympathisants de l'ISIS en Syrie. Les agences de lutte contre le terrorisme indonésiennes et néerlandaises ont organisé un atelier sur le traitement des combattants FTF et d'anciens sympathisants de l'ISIS retournistes qui tentent maintenant de retourner dans leur pays respectif. La déclaration écrite reçue par Antara lundi a déclaré que l'atelier sur la gestion des répatriés FTF en provenance de Syrie, y compris des femmes et des enfants, a été organisé par l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, BNPT, en collaboration avec l'Agence néerlandaise de lutte contre le terrorisme. Le coordonnateur national pour la lutte antiterroriste et la sécurité des Pays-Bas, NCTV à Jakarta. Lors de l'ouverture de l'activité, le chef de BNPT, le commissaire général de police Soardi Alius, a déclaré que le but de la mise en œuvre de l'atelier était de contribuer à l'élaboration de réglementations relatives aux questions de FTF et de retournistes. En outre, selon Souhardi, l'activité visait également à permettre aux pays de faire part de leurs expériences et des problèmes liés à 133 retournistes et à FTF, afin que plus tard, cela puisse ajouter une perspective et des connaissances liées à ce problème. Souhardi espère que cet atelier profitera aux pays participants pour la gestion de FTF et de retournistes. La zone économique spéciale du tourisme de Likupang a été désignée comme destination super prioritaire. La zone économique spéciale ZES du tourisme de Likupang, en régence de Minahasa Nord, de Sulawesi du Nord, était considérée comme une destination touristique super prioritaire par le gouvernement central par le biais du ministère du Tourisme. Le gouvernement central a préparé un soutien budgétaire de la part des ministères et d'institutions pour les destinations super prioritaires en 2020, d'un montant de 773,71 milliards roupias. Le vice-gouverneur de Nord de Sulawesi, Stephen Kandau, a déclaré à Manado que le développement du tourisme dans le nord de Sulawesi avait été pleinement soutenu par la détermination du gouvernement. Il a déclaré que la création de la ZES touristique de Likupang a indiqué que la feuille de route pour le tourisme établie par le gouverneur Oli Dondokambe avait été reconnue et soutenue par le président Joko Widodo. Bon, chers auditeurs, c'était le journal d'aujourd'hui, lu par Audrey. Bonsoir, chers auditeurs. Voici le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « Quand Kurdi se sent être trahi ». Chers auditeurs, les relations entre la Turquie et les Kurdes en Syrie continuent de connaître des hauts et des bas. L'inclusion de l'Amérique dans ce conflit l'a rendu encore plus compliqué. Pendant ce temps, l'armée américaine a coopéré avec les forces kurdes YPG, luttant contre les milices de l'ISIS dans le nord de la Syrie. Inversement, la Turquie a tenu à détruire les forces kurdes qu'elle accusait d'être des groupes terroristes. Un nouveau cycle difficile à deviner est apparu il y a quelques jours lorsque le gouvernement du président des États-Unis, Donald Trump, avait été le principal allié des Kurdes pour avoir écrasé le groupe d'ISIS après avoir approuvé les opérations militaires turques en Syrie contre les forces kurdes. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo appelle les États-Unis à respecter la volonté du président turc Recep Tayyip Erdogan de protéger son peuple des attaques terroristes. Le pas que l'Amérique a pris consiste à retirer les troupes américaines de la frontière turco-syrienne. Ce faisant, les Kurdes commencent à se sentir perdus le soutien des États-Unis et s'est senti trahi. Cité les rapports de Reuters, le retrait des troupes américaines de la région rendrait les forces dirigées par les Kurdes en Syrie, qui sont alliées depuis longtemps à Washington, et vulnérables aux attaques planifiées par l'armée turque, les accusant des terroristes. D'autres observateurs estiment que le retrait rapide des troupes américaines de la Syrie ne profitera qu'à la Russie, l'Iran et au régime d'Assad, et cela augmentera le risque de regroupement de l'ISIS et d'autres groupes terroristes. Ce qui est intéressant, c'est le changement d'attitude des États-Unis qui s'est produit si rapidement et qui semble déroutant. Même lundi 7 octobre 2019, président Trump a effectivement scandé pour menacer d'éliminer, entre guillemets, l'économie turque. S'il est jugé excessif d'agir, mais les forces armées américaines en se sont retirées, ne soutiendront plus ni ne participeront à des opérations et les forces américaines qui ont vaincu le califat du territoire de l'ISIS ne sont plus dans la zone immédiate. Par essence, l'Amérique ne soutient plus les Kurdes. La suite prévisible de l'attitude des États-Unis est que, bien entendu, la Turquie se prépare immédiatement à lancer une attaque sur les milices kurdes. En réalité, Ankara a perpétré à deux reprises des attentats, ainsi la colonne vertébrale du SDF. La Maison-Blanche a déclaré que la Turquie assumerait toute la responsabilité des milices de l'ISIS capturées par les forces kurdes au cours des deux dernières années. Restons à nouveau. Nous allons maintenant voir comment l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis de l'action qui sera lancée par la Turquie contre les Kurdes. Les Kurdes connaîtront-ils les réductions des populations les plus extrêmes par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent? La population kurde en Syrie est concentrée dans la province de Hasaka, à la frontière syro-turque, dans la province d'Alep, dans la région arabe d'Aïn, y compris les Kobani qu'ils défendent actuellement contre les attaques de l'ISIS. 120 000 Kurdes retirés de leur nationalité syrienne. Nous attendrons quel pays se tiendra aux côtés des Kurdes, qui se sentent trahis. Bon, chers auditeurs, c'était le commentaire.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'indépendance de l'Ouganda le 9 octobre 1962. La République de l'Ouganda est un pays d'Afrique de l'Est. Le pays est surnommé « Perle de l'Afrique » par Winston Churchill. Il est bordé par le Kenya à l'est, le Soudan au nord, la République démocratique Congo à l'ouest, le Rwanda dans le sud-ouest et la Tanzanie et le lac Victoria dans le sud. Au XIXe siècle, l'Ouganda gouverné par la Grande-Bretagne et l'Égypte. À cette époque, l'Ouganda est devenu l'une des provinces de l'Égypte nommée Équatoria. La lutte pour l'indépendance de la Grande-Bretagne a commencé en 1945-1949 lorsque des émeutes prolétariat. En 1953, le roi Mutesa II a été exilé en Angleterre et est retourné en Ouganda en 1955. Enfin, le 9 octobre 1962, l'Ouganda a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. L'autre information est sur la naissance de David Cameron le 9 octobre 1966. David William Donald Cameron est l'ancien premier ministre du Royaume-Uni et aussi le chef du parti conservateur. Le 24 juin 2016, le lendemain du référendum sur le Brexit qui détermine le sort de l'adhésion britannique dans l'Union européenne, Cameron a déclaré sa démission. Lors de l'élection générale de 2010, le Parti conservateur a réussi à obtenir le meilleur résultat depuis 1992. Le 11 mai 2010, Gordon Brown a démissionné et Cameron a été nommé Premier ministre du Royaume-Uni. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la mort de Jacques Derrida le 9 octobre 2004. Jacques Derrida est un philosophe français. Il est connu pour l'élaboration d'une analyse sémiotique connue sous le nom de déconstruction. Il est une figure importante dans la philosophie postmoderne. Il a écrit plus de 40 livres, des centaines d'essais et des présentations publiques. Il est considéré comme une grande influence dans les sciences humaines et sociales, le droit, l'anthropologie, l'historiographie, la linguistique et la sociolinguistique. Son œuvre a eu une grande influence en Europe et en Amérique latine. Cerita, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kisah cintaku dan kamu tak menghilang namun juga tak melaju. Kau buat diriku hidup dalam angan semu. Kau tak padamkan harapan, tapi cinta tak juga kau katakan. Oh, bila benar bukan akulah orangnya, jangan kau tunda.
Padamkan harapan, tapi cinta tak juga kau katakan.
C'est la chanson En dessous les gantons, chantée par Acha Septriasa feat. Bayusul Vibe. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie. Et pour le titre, l'Indonésie et les Pays-Bas ont convenu d'intensifier la coopération dans divers domaines. L'Indonésie et les Pays-Bas ont décidé de continuer à travailler sur le projet de développement intégré de la capitale côtière, NCICD. Les précédents accords de coopération de deux pays expireront en juillet 2020. Cet accord a été conclu lors de la réunion du président Joko Widodo avec le premier ministre néerlandais Mark Rutte au palais présidentiel de Bogor à Java West lundi le 7 octobre. Après la réunion, le ministre des Travaux publics et du logement public, Basuki Hadimulyono, a annoncé que l'Indonésie et les Pays-Bas ont convenu de continuer leur coopération dans le développement intégré de la capitale côtière, dont le mémorandum d'accord est expiré en juillet 2020. Le projet de géante de mer existe depuis 3 ans et implique également la Corée du Sud. Dans ce cas, les Pays-Bas sont chargés de trouver un système de financement pour le NCICD. alors que la Corée du Sud est techniquement. Le ministre Basuki Hadimulyono a déclaré que le digue de mer dans la baie de Jakarta serait construite sur une longueur de 120 km. Cependant, jusqu'à présent, la construction de la digue en mer dans le cadre du projet NCICD est sur 20 km. Outre la poursuite du projet NCICD, les Pays-Bas ont également décidé d'établir une coopération dans le domaine des ressources humaines. Selon Basuki, cette coopération en matière de ressources humaines concerne spécifiquement les matières liées aux infrastructures. L'Indonésie a demandé des conseillers pour l'École polytechnique des travaux publics construite à Semarang et les Pays-Bas les ont acceptés. Lors d'une rencontre avec Mark Rutte, le président Joko Widodo a transmis l'appréciation du gouvernement indonésien au gouvernement néerlandais de la coopération entre les deux pays dans le développement de la capacité des petits producteurs d'huile de palme indonésie. Le gouvernement indonésien apprécie la coopération qui vient d'être signée par les Pays-Bas à New York aux États-Unis le 26 septembre 2019. Le président Jokowi a également invité les Pays-Bas à intensifier les partenariats dans les domaines des infrastructures. Le président Joko Widodo a également déclaré au Premier ministre Rutte que les 5 prochaines années, le gouvernement indonésien donnerait la priorité au développement des ressources humaines. Lors de la réunion, les deux chefs d'État ont discuté des efforts pour renforcer la coopération dans les domaines de la formation professionnelle, y compris les domaines maritimes et infirmiers. La visite d'une journée du Premier ministre Rutte en Indonésie fait partie d'une série de voyages en Asie du Sud-Est et au Pacifique, avec des destinations ultérieures, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Serviteurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Hey, kamu cerita. Mengapa kau menatapku manja, membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Senyummu jelita selalu membuatku terpana, seolah tak berdaya diterpa badai asmara.
de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'est la chanson intitulée « Menjadi Milikku » chantée par Adera Kunto Aji Segara. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Serviteurs, bonsoir. Voici donc le magazine culturel. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vous présente le parc national du Ujung Kulon. Ujung Kulon est le plus ancien parc national d'Indonésie. Il a été inauguré en tant que patrimoine mondial et protégé par l'UNESCO depuis 1991. Car son territoire comprend une très grande forêt protégée. Jusqu'à présent, plus de 50 rhinocéros vivent dans cet habitat. Auparavant, Ujung Kulon était une zone agricole, mais finalement il a été détruit lorsque le mont Krakatau a éclaté le 27 août 1883, ce qui a transformé la région en forêt. Ujung Kulon a été exploré pour la première fois par le botaniste allemand F. Junghun en 1846 pour récolter des plantes tropicales. À cette époque, la richesse de flore et de la faune du Ujung Kulon a commencé à être connue des scientifiques. Bien que l'éruption du mont Krakatau ait balayé la région du Ujung Kulon, plusieurs années plus tard, l'écosystème de végétation et les animaux sauvages du Ujung Kulon se développent rapidement. Ainsi, certaines zones sont définies comme des zones protégées. La région du parc national du Ujung Kulon est administrativement située dans le district de Sumur et Cimanggu, la région de Pandeglang en province de Banten. À la fin de 2018, le parc national du Ujung Kulon a de nouveau été touché par le tsunami qui a détruit une partie de la région. Cependant, en trois mois, 70% de la superficie a été restaurée par le gouvernement provincial de Banten et proposée comme géoparc mondial de l'UNESCO par l'Office de tourisme de la province de Banten qui est soutenu pleinement du ministère indonésien du tourisme.
Jadi saya akan mendukung pengajuan géoparc, jadi géoparc nasional untuk.
Je soutiendrai la proposition du géoparc national de Ujung Kulon. Nous espérons que cette année, Ujung Kulon sera un géoparc national. J'ai demandé à la partie au ministère du Tourisme. L'exigence qui n'est pas encore remplie est en plan directeur, mais nous avons encore de la chance car sa proposition est reportée à octobre. Nous espérons donc que cette année, il deviendra un géoparc national et que l'année prochaine, Ujung Kulon deviendra le géoparc mondial de l'UNESCO. Les parcs nationaux sont connus comme des symboles rhinocéros à une corne et l'une des destinations touristiques à visiter si vous êtes à Banten. Le billet d'entrée au parc peut être obtenu au bureau du parc national à Labuan ou à la poste de Taman Jaya. Si vous souhaitez rester la nuit, vous pouvez louer un hébergement dans le village de Taman Jaya, l'île de Handelem et l'île de Pechang. Serviteurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre « Le parc national de Ujung Kulon ». Demain, nous retrouverons avec un autre sujet plus intéressant. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Something I wanna say. Are you ready? Now drop the beat, yo.
그가시고 좀 나좀 맞춤 바라고 조금 서도 맞춤 사줄까 바라고 좀난 더러스 가바기 바기 친다고 조금 사양이었고 그가시고 좀 더러스만 유지고 하고
Chers auditeurs, c'était la chanson d'Afghan intitulée Katakan Tidak. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'Indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est Saya Kecewa. Saya Kecewa. Ou en langue française, je suis déçu. Chers auditeurs, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation et un pour-titre Saya Kecewa. Ou en langue française, je suis déçu. La situation est Che Joko Endah a l'air triste. Tony voulait savoir ce qui s'est passé. Bonne écoute.
Kamu kenapa, Endah?
Aku kecewa.
Kenapa?
Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken.
Oh, sayang sekali.
Chers auditeurs, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui. Saya kecewa. Saya kecewa. En français, je suis déçu. Je vais prononcer deux fois comme d'habitude et vous pouvez me répéter. Kecewa. Kecewa. En français, déçu. Se dit. En français, triste. Kesal. Kesal. En français, contrarié. Bahagia. Bahagia. En français, heureux. Senang. Senang. En français, content. Kenapa. Kenapa. En français, pourquoi. Aku kecewa. Aku kecewa. En français, je suis déçu. Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken. Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken. En français, mon ami a annulé pour passer des vacances ensemble à Bunaken. Ah, sayang sekali. Ah, sayang sekali. En français, ah, tant pis. Chers auditeurs, vous attendez Enda exprimer ses sentiments qu'elle est dessus parce que son ami a annulé de passer des vacances ensemble. Enda a dit aku kecewa, aku kecewa. En français, je suis dessus. Chers auditeurs, voici des exemples d'autres expressions qui expriment des sentiments de cœur. Aku senang, aku senang. En français, je suis content. Aku kesal, aku kesal. En français, je suis énervé. Dia se dit, dia se dit. En français, elle est triste. Bon, la suite, vous pouvez utiliser le mot sangat, sangat. En français, très. Ou bien sekali, sekali. En français, très. Pour montrer que vous êtes très heureux ou très déçu. Exemple. Aku sangat kecewa. Aku sangat kecewa. En français, je suis très déçu. Aku kecewa sekali. Aku kecewa sekali. En français, je suis très déçu. Bon, le mot sangat, sangat en français c'est très, est placé avant l'adjectif. Tandis que le mot sekali, sekali, en français très, est placé après adjectif. Voici autre exemple. Aku sangat bahagia. Aku sangat bahagia. En français, je suis très heureux. Aku bahagia sekali. Aku bahagia sekali. En français, je suis très heureux. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois. Bonne écoute.
Kamu kenapa, Enda?
Aku kecewa.
Kenapa?
Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken.
Oh, sayang sekali.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Mungkinkah adanya api cinta antara kita? Apakah ini
pertanda tumbuhnya benih-benih cinta. Hari demi hari berlalu, raguku dibuatmu beribu tanya di hati. Apakah dirimu rasakan yang sama? Mungkinkah adanya api cinta antara kita? Ataukah semua ini salah duga? Aku yang hanya GR saja. Di saat diriku
cerita setelah dernier sangsong ang titulé GR sang tepak Alika. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Cerita, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Chers auditeurs, ce soir, je vais vous présenter une chanson de Java occidental intitulé Poem Bandung. Cette chanson s'agit d'un repas typique, c'est le tape Bandung, ou on appelle également Poem Bandung en sundanais. Selon les paroles, tape ou Poem Bandung est déjà bien connu dans la ville et dans le village. Le manioc est l'ingrédient principal et son prix n'est pas tout cher. Toutes les personnes, parents et enfants, aiment tape Bandung. Chers auditeurs, si vous n'avez pas encore eu la chance de goûter du tape ou du Poem Bandung, écoutons d'abord maintenant la chanson Poem Bandung de Nining Meida. Bonne écoute!
Mana di kampung di kota? Of Indonesia.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidien en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.